Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Des attaques américaines qui ont repris cette nuit, mais Donald Trump qui reste plutôt optimiste sur une fin de conflit. Il dit que ça ne change rien au cessez-le-feu, que les négociations se poursuivent. Les marchés semblent y croire, ils sont stables, y compris sur le Brent. On en parle avec David Rigouleros. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS. Est-ce que ça avance, les négociations ?
Très très compliqué, parce qu'il y a une grande confusion, on le voit, hein, avec des allers-retours, des déclarations contradictoires, les incidents que vous évoquez, qui, pour la partie américaine, ne remettent pas en cause le cessez-le-feu, même si de facto, c'est quand même une violation du cessez-le-feu, puisqu'il y a eu des tirs sur les Émirats Arabes Unis, des bateaux, des trois destroyers américains qui ont été visés, des répliques américaines sur des sites du littoral d'où seraient partis les missiles et les drones. Donc, on voit que la tension, quand même, il y a une escalade de la tension.
Avec des pays du Golfe qui commencent quand même un peu à perdre patience et à dire qu'ils vont répliquer, certains à dire qu'ils vont fermer leur espace aérien.
Ouais, c'est surtout les Émirats, hein, qui sont particulièrement visés. D'ailleurs, depuis le début, quand on regarde le chiffrage des tirs qui ont eu lieu depuis le début des opérations militaires, les Émirats ont été le pays le plus touché, même par rapport à Israël. Hein. Donc, c'est pas tout à fait un hasard, parce que le contentieux entre Abu Dhabi et Téhéran est lourd. Il est à la fois territorial, géopolitique, énergétique. Donc, ça explique la tension. Et encore ce matin, semble-t-il, il y a une annonce de mise en service, des opérateurs, des intercepteurs émiratis pour des lancements de tirs de missiles et ou de drones en provenance de l'Iran.
Ils ont été plus touchés qu'Israël. Hein,
oui. Quand on regarde, oui, c'est...
Annalisa.
On sait que les réponses de l'Iran dans la négociation se font un peu attendre. Les Iraniens disent que c'est parce qu'il faut faire passer le message au guide suprême qui est caché, isolé du monde pour être protégé. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lui qui prend les décisions ? Qui d'autre ?
Alors, théoriquement, dans le système iranien, le Nezam, c'est le système iranien, le guide suprême est la figure tutélaire, c'est-à-dire l'arbitre en dernier ressort, des équilibres parfois contradictoires au sein de ce système. C'était le cas avec Ali Khamenei, qui était au pouvoir depuis très longtemps, même si au moment de la guerre justement de juin dernier, il s'était retiré, hein, il était beaucoup moins visible. C'est la gaïba dans la culture chiite, l'occultation. Mais en réalité, il est obligé d'être présent, normalement, pour avoir justement un rôle effectif et reconnu. Or là, son fils, dont la nomination a été contestée, en interne même, a un statut encore plus faible que son propre père. D'abord parce qu'il n'est pas ayatollah. Il a instauré un principe dynastique de facto qui est contradictoire avec le principe de la République islamique. Il a été poussé par les gardiens de la Révolution. C'est eux qui ont le pouvoir. Et il se trouve qu'en plus, il est manifestement gravement blessé depuis la frappe, justement, qui a visé son père, le fin février. On dit même que il serait dans l'impossibilité de parler, de manifester. Alors, il se trouve que fonctionnellement, sa stature est maintenue parce que ça doit arranger les gardiens de la Révolution. Mais en réalité, il est un peu comme un président de conseil d'administration sans réel pouvoir. Oui. Et le conseil d'administration, c'est un groupe de gardiens qui sont décisionnaires.
Et plus militaire que religieux ?
Ah oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la République stricto sensu des mollahs, comme on a coutume de la qualifier. On est passé à autre chose, la République des képis, je dis souvent, c'est-à-dire des militaires qui sont des laïcs, mais qui sont pas forcément moins radicaux, parfois plus radicaux que certains religieux, ce qui est le paradoxe. Et en l'occurrence, ils sont sur une ligne très dure dans la confrontation actuelle avec les Américains.
Anaïsa.
Donald Trump essaie de jouer sur le temps, donc de forcer les Iraniens à négocier avec ce facteur du temps, combien de temps ils peuvent tenir sans exporter leur pétrole. Aujourd'hui, on a des informations de la CIA révélées par le Washington Post qui disent que l'Iran peut résister encore 3 à 4 mois au blocus maritime et qu'ils auraient encore 70% des stocks de missiles qu'ils avaient avant la guerre. Donc finalement, on a un peu sous-estimé l'Iran.
Alors, il y a deux choses. Vous mettez l'aspect pétrolier et l'aspect, on va dire, missile balistique. Incontestablement, il y a une sous-estimation qui aujourd'hui est plus ou moins reconnue de manière quasi officielle sur les lanceurs et les missiles. Et vous évoquez l'évaluation de la CIA. Il y a d'autres évaluations, y compris des Israéliens, le fait qu'il y aurait les deux tiers et non pas plus que la moitié des missiles comme évoqué précédemment. Et puis, donc, c'est effectivement, il y a une sous-évaluation, tout simplement parce que c'est enfoui. Il y a ce qu'on appelle les villes de missiles. On parle de 140 4 villes de missiles en profondeur. Donc, elles n'ont pas toutes été détruites. Et donc, ça a permis de maintenir un stock qui, aujourd'hui, peut être mobilisé à nouveau. Concernant le pétrole, oui, c'est la stratégie de l'étranglement par le contre-blocus américain qui est efficace, mais qui s'inscrit dans la durée, effectivement. Et là, se pose le problème de la temporalité qui est mentionnée, à savoir... rapidement ou 3 ou 4 mois pour que ça ait un effet dévastateur. Effectivement, il faut tabler sur au moins 3 mois, même si les effets se font déjà sentir. Et c'est pas uniquement l'exportation du pétrole, c'est-à-dire l'assèchement des liquidités que permettait l'export des pétroliers iraniens à l'extérieur. C'est la question du stockage. C'est-à-dire ce stockage, environ 1,5 million de barils, qui ne peut plus être stocké, ou de manière chaotique.
Ils cherchent partout des endroits pour stocker, en fait.
À la fois sur terre et sur mer. On réquisitionne des vieux pétroliers, des vieux, etc. Parce que le stockage est un enjeu, ça déborde, puisque ça ne peut plus être exporté. Et le problème, c'est la pérennité des puits. C'est-à-dire, on estime aujourd'hui qu'il y a 400 000 barils qui ont été réduits en termes de production, parce qu'on veut maintenir un filet de production pour pas arrêter les puits qui seraient potentiellement condamnés à terme. Et donc là, c'est un vrai souci. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, c'est l'évaluation réelle de l'impact de ce contre-blocus, qui est très difficile, parce qu'il s'inscrit de toute façon mécaniquement dans la durée.
Comment vous voyez le rôle de la Chine derrière tout ça? Il y a eu cette visite du ministre des Affaires étrangères iranien en Chine quelques jours avant la visite de Donald Trump. Est-ce qu'il pousse vers un cessez-le-feu, un plan de paix?
Alors, c'est toujours un rôle ambigu, discrètement efficace et ambigu de la Chine, qui à la fois soutient l'Iran parce que c'est un partenaire stratégique, mais sans aller trop loin. La déclaration du porte-parole chinois, c'est de dire que la situation, la responsabilité incombe aux Israéliens et aux Américains, mais en même temps, ils ont fait savoir aux Iraniens que la situation ne pouvait pas durer, tout simplement parce que l'impact sur la Chine, qui a fait ses propres réserves, donc qui tient, qui arrive à tenir, mais commence à se faire sentir. Et il y a un choc, un colosse mondial, dont la Chine n'est pas exempte, évidemment. Et donc, elle a fait savoir quand même à Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, que la situation ne pouvait pas durer. Le problème, c'est que Abbas Araghchi n'est que la voix de son maître, entre guillemets. Et derrière, il y a la question des gardiens de la révolution, qui ont parfois des initiatives intempestives. Et donc, c'est très difficile d'avoir une lisibilité exacte, effectivement, des attendus de la situation actuelle.
Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.